Hello, English speakers, welcome. Je pensais qu'il y avait des anglophones, donc je vous donner quelques indications, au moins pour le texte. Et puis, est-ce qu'ils parlent français? Ah bon, ça va. Bon alors, pas de souci. Donc là, c'est tout bon. Ça, j'ai pas besoin de ça. Bon. Alors. Je pense que c'est bon. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher sur la politique ou le rôle du chrétien dans la politique. C'est l'Assemblée générale. Je ne vais pas prêcher sur la mission de l'Église ou autre chose. C'est aussi aujourd'hui ce qu'on certains célèbrent comme le dimanche des rameaux. C'est-à-dire quand Jésus entre à Jérusalem et il y a toute la foule qui met des branches devant lui pour son entrée triomphale. Alors, je vais pas prêcher ça sur ça non plus, mais j'espère que le message que je donnerai, ce serait une espèce d'une manière de poser des branches par terre pour laisser entrer Jésus. Dans le message et dans notre présence aujourd'hui. Alors je vais, vous avez déjà un petit aperçu là-haut de quoi on va parler ce matin. L'humilité précède la foi précède le salut, l'histoire d'une petite fille réfugiée, esclave et d'un général. Et j'aurais besoin d'un lecteur un moment. Je ne sais pas qui a une bonne voix pour lire le texte qu'on va lire, mais je préfère pas le lire ce matin. Pascal, si tu veux bien, je te donne le texte. Et au moment venu, je te dis, et puis voilà. J'étais malade, c'est depuis 2 semaines, là, donc une grippe où je toussais comme un dingue. Donc si ça me prend ce matin, excusez-moi, je m'excuse d'avance. Pour cela, toujours un petit peu de quelque chose là-dedans. Et donc, je vais nous placer dans le contexte du message. L'époque qu'on va traiter ce matin, et c'est moi qui ai le truc pour avancer, donc je vais avancer. Toujours des problèmes techniques. Bon, c'est pas grave. Enfin. Et ça y est, on va vivre avec, non? Là, ça va marcher. Donc, l'époque, on se place dans le contexte du message. L'époque est celui du royaume divisé après David et Salomon. Il y a eu 350 ans où le territoire du peuple d'Israël est coupé en deux. Notre récit se déroule vers 852 avant Jésus-Christ. Le roi, qui n'est pas cité dans le texte, est probablement Joram, qui est le 10e roi du royaume du Nord. Donc vous voyez Israël, royaume du Nord, Juda, royaume du Sud. Il a régné 12 ans, Joram, et il était roi pendant la vie des prophètes de Élie et Élisée. Donc c'est lui qui est au pouvoir à cette époque. Il a connu la guerre et la famine au cours de tout son règne. Parmi les nations avec lesquelles il était en guerre est la Syrie, qui est au nord. Donc vous voyez là, en haut à droite, où c'est marqué Damas, Aram, Syrie. Ça, c'est, donc ils sont en guerre. Et au moment de notre récit, il y avait un accord de paix, une trêve entre la Syrie et le royaume du nord. Le roi donc de la Syrie, qui encore n'est pas cité dans le texte, est probablement Ben-Hadad II. Mais la trêve, donc il vivait cette trêve, la trêve n'a été pas toujours respectée, comme dans d'autres guerres, et des troupes de pillards effectuaient parfois des razzias de l'autre côté de leurs frontières. Et puis on a l'impression dans cette histoire que c'est la Syrie qui est en position de force. Okay? Et dans ce contexte politique et militaire où nous sommes témoins de la grande histoire, c'est-à-dire le conflit entre ces deux peuples, nous rencontrons deux personnes et nous apprenons quelques détails sur leur quotidien, des tranches de vie de ces deux personnes. Et je vais demander maintenant de... Donc vous pouvez regarder dans... prenez vos Bibles, papier électronique ou autre, et trouvez le texte en 2 Rois, chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset 15a, c'est-à-dire la première moitié du verset 15, je n'inclus pas la deuxième moitié du verset 15. Et Pascal, si tu veux bien lire.
Que celui d'Israël.
Merci Pascal. Avant de rencontrer les personnages de notre récit, je voulais m'arrêter sur un point théologique majeur à souligner dans le premier verset de ce texte. Et il s'agit de la souveraineté de Dieu. Et en fait, je devais prêcher ce message il y a quelques semaines. Et puis la semaine suivante, Gérard a prêché effectivement sur cette question de la souveraineté de Dieu. Et j'étais content d'entendre cette partie de ce message. Donc, il s'agit bien de la souveraineté de Dieu dans ce monde. Ce terme théologique désigne le pouvoir libre et illimité de Dieu qui exerce un contrôle absolu sur le monde et sur l'histoire. Et on voit la souveraineté de Dieu sur toutes les nations et les événements de l'histoire dans ce texte qu'on s'est écrit. L'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens, c'est-à-dire l'armée de Naaman, par Naaman. Alors, Dieu est à l'œuvre dans la vie de cet homme, Naaman, avant qu'il le sache. Et il utilise ce roi, enfin ce général, pour accomplir son dessein dans l'histoire. C'est un moment où on remarque la souveraineté de Dieu dans l'histoire. Et c'est important de garder ce fait du contrôle de Dieu sur l'histoire à l'esprit. Et dans les agissements entre les nations, dans les événements de l'histoire, ils sont toujours sur le contrôle d'un Dieu souverain. Et Jésus exprime cela aussi quand il enseigne aux disciples comment prier, et il dit « C'est à toi, Père Céleste, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » C'est la souveraineté de Dieu sous toute l'histoire. La souveraineté de Dieu, ça nous rassure dans un certain sens quand on voit que Dieu fait du bien à un peuple ou au peuple, comme dans l'exemple de Joseph qui nourrit le peuple d'Égypte et ainsi nourrit le peuple d'Israël. La souveraineté de Dieu, dans ce sens-là, ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Mais cela nous fait poser parfois des questions lorsque les peuples souffrent, n'est-ce pas? La souveraineté de Dieu qui permet la souffrance. Bon, ça c'est un autre message à développer, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais comprendre la souveraineté de Dieu, il y a ces deux facettes. Mais ce passage souligne que Dieu est le seul Dieu, pas seulement un Dieu local, ou seulement le Dieu du peuple d'Israël. Donc j'arrête sur ce point de théologie important pour maintenant regarder un peu les personnages d'histoire. Alors d'abord on va regarder le général Naaman. Sa position c'est quoi? Il est le général en chef de l'armée du roi du Syrie. Son caractère, c'est noté dans le texte, il est valeureux, c'est un guerrier. Il est apprécié par son roi qui lui montre sa faveur. Donc c'est quelqu'un qui fait du bon boulot et il est bien placé avec son chef. sans souci, il est malade. On ne connaît pas exactement quelle maladie, de quoi il s'agit. Il y a des raisons pour dire que c'était peut-être pas la lèpre comme on le connaît aujourd'hui, mais on sait que c'est assez sévère pour qu'il cherche activement un remède. Et puis, en début de cette histoire, il y a aussi cette petite fille qui est là. La petite fille réfugiée esclave. Donc, on a un contraste entre ces deux. La position de la petite fille, c'est un enfant. Elle est réfugiée. Donc, elle a été prise de son pays d'origine et amenée ailleurs. Elle est esclave. Elle n'a pas de choix. Elle est servante. Donc, elle est réduite aux plus humbles des circonstances, arrachée de sa famille à cause de la guerre, déportée dans un autre pays et forcée à travailler. Pas très cool. Elle ne parle même pas au général. Si vous lisez le texte, elle ne parle même pas au maître. C'est sa maîtresse qui parle pour lui. Et dans l'histoire, donc peut-être un peu le comble ou de montrer l'insignifiance de cette fille, on ne mentionne même pas son nom. On connaît même pas le nom de cette fille réfugiée esclave. Son caractère, c'est quoi? On voit qu'elle n'est pas calculatrice. C'est un enfant qui est qui est esclave dans la maison de l'ennemi, si vous voulez. Elle voit un homme qui souffre. Elle cherche le bien de cet homme et elle propose une solution. Et elle a foi que cette solution va marcher. Elle a la foi. Elle croit dans un Dieu qui peut guérir cet homme qu'elle voit souffrir. Et ça veut dire que certainement que avant d'être arrachée de sa famille, qu'elle était dans une famille de croyants, de juifs croyants. Ça lui donne un contraste entre un homme grand, âgé, fort, et une petite fille jeune, faible. Les deux n'abordent pas la vie aux armes égales, n'est-ce pas? Les deux personnes sont dans des positions différentes. Et elles n'ont pas non plus, les deux personnes, la même perspective sur la vie. Et si on résume la situation de ce général et cette fille, il y en a trois qui sont au pouvoir. Ben-Hadad, le roi de Syrie, Naaman, son général, et Joram, le roi d'Israël. Et avec ces trois hommes-là, les trois hommes qui sont au pouvoir, ils n'ont rien à proposer pour résoudre le problème de la maladie de Naaman. La proposition, ça vient de la jeune fille. Le problème, comme je viens de citer, c'est le fait que cet homme, Naaman, est malade. Et la possible solution est cette proposition d'aller voir Élisée. Alors, le général et le roi Ben-Hadad vont essayer de résoudre ce problème de maladie utilisant la méthode syrienne. Et ça, en quoi consiste la méthode syrienne, vous pouvez demander. Cela implique déjà un échange diplomatique, c'est-à-dire entre les deux pays, on entend qu'en Israël il y a peut-être une solution, le roi arrange le fait que son général puisse aller là-bas. Deuxièmement, il y a une espèce de d'achat, si vous voulez. Ce qui est proposé, c'est un achat de guérison. Si on lit le texte, il y a beaucoup d'argent en jeu dans cette histoire. La somme apportée est égale à la paie annuelle de 600 ouvriers. Quand on lit le texte et on voit le montant, paie annuelle de 600 ouvriers. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent de 690 millions d'euros. Si on fait le calcul sur le salaire annuel de 600 personnes. Faites le calcul vous-même, vous verrez. Moi, j'y croyais pas au départ, mais c'est juste. Alors, regardons les profils un peu des deux rois, donc qui sont dans cette histoire. Ben-Hadad de la Syrie. On a l'impression que Ben-Hadad est assez cool dans cette histoire, c'est-à-dire il est au pouvoir, il dit à Naaman, son général, je te fais la lettre pour que tu puisses aller en Israël pour te faire guérir. Tu as des sous, donc tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Vas-y mon grand, soigne-toi et bonne route. Donc Ben-Hadad, c'est bon, pas grand-chose à dire. Par contre, Joram, qui est le roi d'Israël, un homme d'État, lui, il est censé connaître Dieu et d'avoir confiance en Dieu en tant que roi d'Israël, n'est-ce pas? Mais Joram n'est pas tranquille dans cette histoire. Il pense qu'on essaie de le piéger, que c'est un jeu politique où on essaie de piéger pour créer encore du conflit entre les deux nations. Et il montre pas, par ses réactions, une confiance en Dieu. Vous voyez ce qu'il fait dans le texte. Il pense que, en quelque sorte, en fait, il se demande, est-ce que c'est moi, Dieu, qui peut guérir? Il dit, est-ce que c'est moi, Dieu, qui peut guérir? Et puis, il pense pas en même temps que Dieu peut guérir. Vous voyez la chose? Et donc, il pense que c'est à lui seul, par ses propres moyens, de faire quelque chose. Il entre en mode de crise, il déchire ses vêtements, c'est une signe de consternation, pourquoi on m'a mis dans cette position? On essaie de me piéger, et il n'a pas de solution, lui. Le roi d'Israël, ça me semble louche quand même pour le roi d'Israël, mais c'est sa réaction. Il n'a pas le réflexe non plus de consulter Élisée. Il y a le prophète Élisée qui est dans le pays et le roi d'Israël n'a pas le réflexe. Bah, écoutez, on va voir avec le prophète, on va voir le pouvoir de Dieu dans cette affaire. Et Élisée, l'homme de Dieu, apprend de lui-même, pas de Joram, il prend de lui-même cette demande de Naaman et donc, on voit une totale absence de la foi en Dieu chez Joram. Regardons maintenant un petit peu l'événement lui-même. Alors, la solution proposée, c'est que Naaman va chez Élisée pour être guéri. Naaman, il arrive, c'est un général, il arrive en grande pompe chez Élisée, le prophète, avec ses chevaux, avec son char, ses cadeaux. Ces millions d'euros. D'accord? Toutes ces choses-là sont des symboles de pouvoir, de puissance. Mais en fait, dans son état de malade, il est impuissant. Donc il arrive avec tous ces symboles de puissance, mais en fait, il est pas puissant. Il est malade. Ensuite, Élisée ne vient même pas à son rencontre. Il envoie des instructions à Naaman par un serviteur. D'accord? Et dans le livre de Lévitique, on voit ce que c'est la remède, la purification pour un lépreux. En fait, il y a dans la loi, il fallait une purification en 7 étapes, c'est-à-dire en 7 bains différents pour qu'un lépreux, soit guéri. Donc c'est l'ordonnance qui est ici donnée par Élisée à Naaman. Élisée lui demande de faire un acte presque privé. Va dans la rivière te laver. Il ne demande pas un grand spectacle. Élisée ne sort pas de sa maison comme pour rassembler tout le monde et puis pour faire une guérison publique de cet homme. Il n'y a pas de grand spectacle dans cette histoire. Et le général, à qui on doit toujours montrer du respect, et qui est une personne qui donne des ordres aux autres, est ainsi boudé, en quelque sorte, par Élisée. Élisée n'est même pas sorti pour le voir. Le résultat, Le résultat de cet incident-là, c'est que le général, il est scandalisé par tout ça. Il est en colère. Les choses ne se passent pas comme lui l'avait prévu. Et en petite parenthèse, nous, dans notre vie, quand on avance dans notre vie chrétienne, parfois les choses ne se passent pas comme nous imaginons que, comme Dieu doit faire dans notre vie. On a parfois du mal à accepter la manière dont les choses se passent dans notre vie. Donc, les choses ne se passent pas comme Naaman a prévu. Et puis, par la suite, lui donne sa conception de comment ça devrait se passer. Donc, dans le texte, vous verrez, il explique qu'il pensait que quelqu'un allait sortir, on va lui faire ceci et cela, mais ça se passe pas comme ça. Et puis, donc il est toujours, c'est la personne qui est malade, mais il se croit toujours en position de force dans l'histoire. Et il se moque même de la solution dans le texte. Il se moque de la solution en disant, offerte, et de la qualité de l'eau du Jordan. Donc si en fait, vous voyez, il compare les rivières de la Syrie qui sont d'une clarté et du Jordan qui est une rivière boueuse, qui est bien le cas. Mais lui, dans cette histoire, il se dit, votre solution, elle est nulle, entre guillemets. Alors, il est en colère à cause de tout ça. Il arrive en grand pompe. Élisée ne se montre pas. On donne une solution à son problème qui ne lui convient pas. Il n'est pas seulement en colère, il est furieux. Je pense que c'est dit dans le texte qu'il est furieux. Et il est sur le point de partir. Il souffre d'une maladie, mais il n'accepte pas les conditions proposées. Alors, arrivent les serviteurs à ce moment-là. Les serviteurs, humbles serviteurs, comme une fille réfugiée esclave qui donne une solution à cet homme. Arrivent encore les serviteurs. Ils raisonnent avec lui et lui demandent de faire quelque chose de plus bas, si tu veux, de sa personne. Lui qui attendait du spectacle public, il demande de faire quelque chose de plus bas que sa personne. Et lui disent, faites simplement ce qui vous a demandé de faire. Pourquoi pas? Faites simplement cela. Et Élisée lui demande de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, le rite de purification du peuple juif. Ça peut être aussi une partie de son problème parce qu'il est syrien, donc il peut avoir une sorte de conflit aussi à l'intérieur à cause de cela. Mais en tout cas, pour le général, ce qui est proposé, c'est trop gros, c'est trop simple. Il veut autre chose. Alors, voilà, l'image reste sur cette image-là. Et pour moi, dans ce texte, c'est ici qu'on arrive à un espace blanc. Le moment clé de l'histoire. Naaman est confronté avec la demande de poser un acte d'humilité et de foi. Cette confrontation se passe dans l'espace blanc entre la fin du verset 13 et le début du verset 14. Donc regardez dans vos Bibles et vous verrez que entre le point du verset 13 et le début du verset 14, Il y a un blanc. Il y a un espace blanc. Est-ce que vous voyez l'espace blanc là? Vous ne me suivez pas? C'est-à-dire que le moment clé de cette histoire n'est pas dit dans le texte. Mais il y a quelque chose qui se passe entre le verset 13 et le verset 14. Et cet espace-là est très important. Entre la question des serviteurs, pourquoi ne faire pas ce qu'il te dit, te plonger simplement dans l'eau pour être purifié, entre cela et Naaman descendit au bord du Jourdain et il se trempa. L'espace. Dans cet espace-là se produit ce moment d'humilité, le moment où il ne tient plus à ses idées préconçues et où il ouvre la porte à la possibilité que les conseils de la petite fille réfugiée esclave et les instructions d'un homme qu'il n'a jamais rencontré peuvent changer sa situation. Il était en colère avant, mais il arrive ce moment d'humilité. Il ouvre la porte à la possibilité que Dieu peut changer les choses. Pour moi, cet espace blanc et ce moment d'abandon à l'humilité et à la foi est le moment clé dans la vie de Naaman et dans notre vie aussi. L'humilité précède la foi précède le salut. Et il peut paraître drôle de parler d'humilité de cet homme, ce général-là. Naaman n'était certainement pas un homme d'humilité. Mais Dieu lui a permis de connaître cette humilité et la foi juste à ce moment-là. Et donc on va focaliser sur cette idée-là maintenant de l'humilité en regardant quelques passages biblique, ce que la Bible nous dit sur l'humilité. Donc, si tu as le prochain. En tout premier lieu, la Bible avertit contre le manque d'humilité. Et je vais... Il y en a beaucoup de textes sur l'humilité. Je vais juste parcourir quelques-uns, mais commençons avec le fait que on est averti contre le manque d'humilité. Et premier verset, l'homme estime toujours que sa voix est bonne. Celui qui pèse les cœurs, c'est le Seigneur. On aime penser que nous avons raison, n'est-ce pas? Enfin, moi, je sais que moi, j'aime penser que j'ai raison dans l'histoire. Et souvent. Il s'avère que en fait non, j'ai pas raison et voilà quoi. Mais c'est notre nature, cet orgueil. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Et santé pour la peau dans le cas. De Naaman, parce que lui, il est entré dans cette humilité. En Ésaïe 5, 12, il y a même une malédiction prononcée contre les personnes qui manquent d'humilité. Ça commence avec « malheur ». Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. Dernier verset de cette partie, il arrive que quelqu'un estime sa conduite droite. Je pense que je suis sur le bon chemin, alors que finalement, elle mène à la mort. Prochaine partie sur l'humilité. Avertissement contre manque d'humilité. Et la Bible nous appelle directement à l'humilité. Il y en a beaucoup de versets. Et ici, quelques exemples. Mieux avoir un esprit humble et frais avec les gens de conditions modestes que de partager le butin avec les orgueilleux. La crainte de l'Éternel est une école de sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Et vous tous, et là c'est Pierre qui parle dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup sur l'humilité dans les Proverbes et dans l'Ancien Testament, mais si c'est le Nouveau Testament, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, c'est-à-dire mettre les vêtements d'humilité. Vous sortez tous les jours, il faut s'habiller-vous avec l'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, il accorde sa grâce aux humbles. » Écoutez cette prochaine partie. « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Quand j'ai lu ce verset, quand j'ai relu ce verset-là, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu. L'image est venue à l'esprit d'un homme ou d'une femme qui se met sous la main de Dieu. Tenez-vous humblement, disons même à genoux, disons même face à terre, sous cette main puissante. Au lieu de sortir de cet endroit-là et de dire, mais, et moi, et qu'est-ce que moi, et tenez-vous humblement sous la main puissante de Dieu, au lieu d'être orgueilleux. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il prend soin de vous. Il vous élève au moment approprié. Vous ne le cherchez pas vous-même. Avez-vous parfois le sentiment qu'on ne vous estime pas à votre juste valeur? Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment? Attention à un manque d'humilité quand on est dans ces moments-là. Puis, en même temps, déchargez-vous sur Dieu. C'est ce que dit ce verset. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur Dieu parce qu'il prend soin de vous. Ce verset m'a beaucoup parlé. Alors, suite d'une petite regard sur l'humilité, Jésus. À travers la Bible, on a un exemple d'humilité, et c'est Jésus. Et voici les versets, c'est à la fois des versets théologiques et des versets d'expérience de vie de Jésus. Lui qui était de condition divine ne cherchait pas à profiter d'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur, on y arrive encore, en se rendant semblable aux hommes. Puis à Gethsemane, là c'est une tranche de vie de Jésus. Jésus arriva avec eux à Gethsemane, il commence à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Puis il se laissa tomber face contre terre et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte-moi cette coupe. » Toutefois les choses se passent. Non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. L'humilité du Fils face à cette angoisse et cette épreuve qui était devant lui. Plus tard, il est arrêté devant le grand conseil. Tous alors condamnèrent Jésus en le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Ils lui recouvrirent le visage. Ils ont mis un sac sur la tête, un bandeau sur les yeux. Ils recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant, « Hé, fais le prophète. C'est qui te frappe là ?» Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent des gifles. Puis finalement, lui, Jésus, s'abaissait lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Nous avons un exemple d'humilité en Jésus. Les Écritures célèbrent l'humilité comme une vertu cardinale, le contraire de l'orgueil. L'orgueil qui était le tort de Satan qui voulait être comme Dieu, qui était admiratif de sa propre beauté. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament mentionnent le terme humilité une centaine de fois et encouragent, voire commandent l'humilité comme la seule réponse à l'autorité de Dieu. Cette humilité inclut le fait d'admettre que nous sommes faibles et dépendants, ce que Naaman ne voulait pas faire au départ, et que Dieu est tout-puissant et bon. Une personne avec cette humilité-là met sa confiance et son espoir en Dieu. Et l'histoire de 2 Rois 5 est un récit qui peut nous diriger vers notre besoin de nous humilier devant Dieu et de mettre notre foi en lui. Les trois hommes puissants, Naaman, Yoram, Ben-Hadad, ils étaient encombrés par le manque d'humilité, n'est-ce pas? Ben-Hadad semblait se contenter de sa position, son pouvoir de roi. Yoram, qui devait avoir la même foi que la petite fille réfugiée, esclave, n'avait pas cette foi en Dieu. Et puis Naaman, en colère. Par contre, la petite fille esclave réfugiée, son nom, elle était dénuée d'orgueil, n'est-ce pas? Elle était dans la maison de son ennemi. Elle était dénouée d'orgueil. Elle n'avait pas de souci pour reconnaître Dieu et de se tourner vers lui, ni de problème pour aider cet homme qui souffrait, malgré sa position devant lui. Et on peut comprendre peut-être l'attitude de Naaman vu sa position et son caractère. Et dans notre vie, on nous conseille, on nous pousse sans cesse d'apprendre de plus en plus, n'est-ce pas? D'accueillir encore des compétences, grandir dans ce sens-là, améliorer nos performances. On nous conseille de faire tout ça. Tout au long de la vie, de progresser, d'être grand. Et on croit tous au slogan « toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort ». Vous connaissez Fort Boyard? Et là, je ne conseille pas forcément le contraire de tout ça, c'est-à-dire c'est pas une mauvaise chose de progresser, d'être meilleur dans nos compétences, d'avancer. C'est pas ce que je veux dire. Mais sans l'humilité devant Dieu et sans vivre l'humilité avec les autres, tout le reste est seulement du bruit comme une cloche qui sonne ou un symbole bruyante. Quant à Naaman, une transformation s'est opérée en lui. Dans un premier temps, il a actionné tous les leviers qu'il avait pour sortir de sa difficulté. C'est-à-dire qu'il a utilisé sa position, il a abordé le roi, le roi a agi en sa faveur, il a essayé avec l'argent, il a essayé avec la colère de faire avancer les choses. Mais le Dieu qu'il avait déjà utilisé pour gagner les batailles, vous vous souvenez du premier verset, Dieu qu'il a déjà utilisé Naaman pour gagner les batailles pour la Syrie, voulait amener le général ailleurs. Plus d'épée, plus d'armure, juste lui, habillé simplement pour entrer dans l'eau Et pas la plus belle eau d'ailleurs, cette eau boueuse du Jordan. Dieu voulait amener Naaman à ce moment d'humilité et de foi, à cet abandon où il ouvre la porte à l'action de Dieu dans sa vie. Et quand il est entré dans cet espace d'humilité, Dieu a agi dans la vie de Naaman. Prochaine image, Jean-Noël. Quel est le résultat du fait qu'il s'est humilié devant Dieu, a accepté la solution proposée? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite dans la vie de cet homme? Première chose, c'est que en adoptant une attitude d'humilité, il devient comme un enfant, à la merci de ceux qui ont l'autorité sur lui. Tout comme la petite fille réfugiée, esclave, était à sa merci, à la merci du général. Lui s'est mis à la merci d'Élisée, de les instructions données par Dieu. En adoptant une attitude d'humilité, sa peau devient comme la peau d'un enfant, c'est dit dans le texte. Si vous voyez, il y a un cycle dans ce texte qui revient sur cette idée de l'enfant, de renouvellement comme un, et de revenir à cet état d'enfant. En adoptant une attitude d'humilité, il est purifié, il est guéri, il obtient ce qu'il cherchait. Dieu lui a donné des victoires militaires, mais là, Dieu lui donne la victoire sur la maladie. Et pourquoi? Pour que Naaman le confesse et le glorifie. En adoptant une attitude d'humilité, il découvre le vrai Dieu. Les Syriens, ils avaient des dieux, le Dieu des cieux, Dieu de la lune, Dieu du soleil. Ils avaient des dieux. Mais quand il est entré dans cette réponse de oui à la proposition du Dieu, du seul Dieu, il le connaît pour la première fois. C'est pas un juif. En adoptant une attitude d'humilité, il démontre que Dieu est le Dieu de tous les peuples. Ici, dans l'Ancien Testament, de Dieu de tous les peuples. Et il dit de sa propre bouche, Naaman, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre. C'est la fin du verset 15. En adoptant une attitude d'humilité, il reconnaît qu'on doit adorer le seul vrai Dieu, Yahweh. On ne connaît pas la suite de l'histoire entre Naaman et la petite fille réfugiée esclave. C'est marqué nulle part dans le texte. Mais on peut imaginer quand il rentre chez lui guéri et il retrouve cette fille que peut-être, probablement, il y a une sorte de reconnaissance du général envers cette fille qui avait la foi pour proposer cette solution. Ma prière aujourd'hui est que chaque personne connaîtra ce moment d'humilité et de foi devant Dieu, où on ouvre la porte à la possibilité que Dieu peut changer notre situation. Est-ce que vous avez envie de tels moments dans votre vie, de connaître de vrais changements, parce que vous vous êtes abandonné à Dieu dans vos circonstances? Sur le plan de notre salut, tout comme l'humilité de Naaman a précédé sa transformation, l'humilité de Jésus précède le salut des hommes et des femmes. Son don de sa personne sur la croix nous ouvre la porte de ce don de salut. Lui, son humilité, a donné accès à nous à notre salut par la suite. Grâce à Jésus, à cause de sa mort sur la croix et de la puissance de sa résurrection, nous pouvons connaître le seul vrai Dieu et être renouvelés, sauvés par lui. À nous de saisir ce salut comme un enfant. Vraiment, Jésus a dit, vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. La foi en Jésus te semble trop gros, parfois? Trop simple, la proposition? Sois humble devant Dieu et daigne accepter son offre de salut avec la simplicité d'un enfant. Et sur le plan de notre vie quotidienne avec Dieu, en tant que chrétien, est-ce que vous avez besoin de vous humilier devant Dieu et de mettre votre foi en lui de nouveau? Est-ce que vous avez pris des habitudes d'autosuffisance, d'orgueil dans certains domaines? Est-ce qu'il y a un domaine où tu dis « Seigneur, tout ce que tu dis là dans ta Bible, c'est trop gros, ce truc-là, ou c'est trop difficile. Je ne peux pas. J'ai essayé. » Ou est-ce qu'une partie même de la Bible où tu rechignes contre elle? Je suis pas d'accord avec ça. Je peux pas accepter ça de ta parole. Est-ce que tu minimises parfois les conseils donnés par Dieu? Peut-être qu'on a besoin d'entrer de nouveau dans cet espace blanc, c'est-à-dire cet espace où on s'humilie devant Dieu, on se met humblement sous la main puissante de Dieu et on compte sur lui pour le changement, pour la transformation. Pour conclure, je veux juste lire un dernier verset sur l'humilité. Merci d'avoir accordé tout ce temps. Sachez que l'Éternel est bon. Il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qui prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissant à ses commandements. Bon dimanche, des rameaux de l'élection de l'Assemblée générale.